séance qui initialement était prévue en mars et qui a été reportée. Et je remercie les intervenants d'avoir bien voulu le faire cet après-midi. Donc nous allons avoir deux exposés sur un sujet qui prolonge les réflexions de ce matin sur la tentation de Saint-Antoine. Donc Sylvie Trier va d'abord intervenir sur le défilé des dieux, hein, de l'idole primitive à Loulou, c'était votre titre initial. Et Sylvie Trier donc, est maître de conférence à l'université de Montpellier et l'auteur d'un très bon livre intitulé « Une esthétique de la déliaison », Flaubert, donc 1870-1880, qui est paru chez Champion en 2002 et que nous avons au Centre Flaubert. Donc Sylvie, nous vous écoutons.
Je voudrais d'abord dire d'où est partie ma réflexion, de quelle rupture dans le texte flaubertien. Entre la première et la dernière version de la tentation de Saint-Antoine, la tirade du Dieu d'Israël fond de deux tiers. En TSA, pour aller vite, 1 et 2, le Dieu d'Israël mentionne un Dieu de Nazareth qui a passé par la Judée et emporté les apôtres, les autels, les prières. Dieu mesure donc ce qui lui a été enlevé et s'en plaint. Grief et jalousie dans le ton des récriminations très humaines des dieux de l'Olympe. Un lien est donc fait entre Dieu et Jésus, liage repris par le diable quand il dit « puisqu'ils sont passés, le tien tombera ». Lien repris aussi par Antoine, qui prie Jésus d'où Jésus, et qui proclame la Trinité, Fils de Dieu qui est Dieu, Dieu comme le Père, Dieu comme le Saint-Esprit, vous êtes un. Le matériau est au complet en quelque sorte, père-fils, religion hébraïque fracturée par la chrétienne, religion chrétienne opératoire à travers la foi d'Antoine. De plus, la place du Dieu d'Israël au final du défilé est logique. Il est au terme du défilé parce qu'il est le chaînon qui précède immédiatement le Dieu de Nazareth. Non seulement ce Dieu prend une place cohérente, mais sa puissance est marquée. La mort laisse tomber son fouet, tandis que le diable recule d'un pas et que la luxure tremble. Les choses changent énormément dans la troisième tentation. La refonte complète de la conclusion déplace le défilé en amont, le voyage avec le diable lui faisant suite et l'épisode de la matière fermant le texte. Ce déplacement engage un nombre de modifications. Dans le défilé des dieux, le Dieu d'Israël perd en capacité d'existence par réduction drastique de sa déclaration, ramassée, précipitée, comme énoncée dans une urgence qui freine d'autant la virtualité de visualisation du Dieu. Jusqu'alors, les évocations développées d'épisodes bien connus de la Bible faisaient image. Je cite « Par des robinets d'argent, je lâchais les pluies du ciel, je séparais les mers avec mon pied ». Toute la partie sur les prophètes aussi, avec leur sueur, leur manteau. Tout cela, en fait, a disparu. Reste la sécheresse des seuls signifiants, Sodome, le déluge, Pharaon. Et seul reste dans la section des prophètes inspirés, la phrase finale, le vent qui passait, emportait les prophètes. Un vent d'aridité a soufflé sur la tirade du Dieu d'Israël et a érodé l'énoncé de sa puissance. Un rapide exemple. Quand, en Tentation 1 et 2, la loi de Dieu était présentée comme étreinte et soutien pour le peuple. Elle devient, dans la tentation 3, enfermement. Je cite simplement la phrase de la troisième version. « J'avais gravé ma loi sur des tables de pierre. Elle enfermait mon peuple comme dans une citadelle. Alors qu'en 1 et 2, on avait « Elle étreignait mon peuple d'un nœud rude comme la ceinture de cuir du voyageur qui lui soutient la taille. » Cet enfermement est redoublé par celui de la phrase cadre. J'étais le Dieu des armées, le Seigneur Dieu. D'autant plus audible que le discours s'est raccourci et que Yahvé est le seul Dieu qui se voit ainsi attribuer une telle clôture, un tel encadrement discursif. Ajoutons que dans la troisième version, le « je » et le « présent » ont disparu. En 1 et 2, on trouvait dans le discours du Dieu d'Israël « je n'ai pas un temple ». Ça a disparu en 3. Donc disparition du jeu et du présent, alors que les autres dieux du défilé se vérifient au présent et en première personne. Par exemple, « Je suis le maître », dit Bouddha. « Je suis le contemporain des origines », dit Oannès. « J'ai peur », dit Hormuz. « Je ne suis plus le maître », pour Jupiter. On conclura de tout cela à une caractérisation de Yahvé par la perte et l'impersonnalité. que vient souligner le fait, évidemment, qu'il est sans nom, puisqu'il est simplement une voix. Enfermement, effacement de la chronologie, lieu énonciatif estompé, disparition de la mention du Christ. Tout ceci nous conduit à remarquer que Dieu n'est alors plus à sa place. S'il n'est plus le chaînon vers le Christ d'Antoine, alors il devrait se situer dans un défilé qui est chronologique, des origines à la Rome décadente, et qui est aussi géographique, d'Orient vers l'Occident. Il devrait se situer quelque part peut-être du côté des dieux égyptiens, voisins et contemporains du judaïsme. À ne venir qu'au temps de Crépitus, dans la Rome aux dieux multiples, il prend finalement la place du Christ, lequel a disparu. Résumons-nous, le dieu des Hébreux déplacé, présent si l'on peut dire in extremis, réduit de 2/3, qu'emblématise la figure de l'enfermement, un dieu infiguré, dévitalisé, coupé du Christ. Ce dieu, je le dirais, stérilisé, pour ces raisons-là, et aussi dans la mesure où nulle mention du Père, du Fils, de Jésus ou du Saint-Esprit ne vient plus accomplir, en dehors du défilé, la pleine logique de la présentation des religions. La cohabitation des productions mythologiques et du système religieux judéo-chrétien représenté par le diable, les péchés ou la mort, dans les deux premières tentations, cette cohabitation disparaît dans la troisième tentation. L'appareil théologico-figuratif disparu, c'est la potentialité mythologique du christianisme qui se trouve mise en défaut jusque dans ses racines hébraïques. En l'absence du folklore théologique, ne reste qu'une croyance peu figurative qu'à mon sens, le blanc opéré sur le Christ vient radicaliser. Comment, autour de cette absence, Flaubert compose-t-il malgré tout la représentation du christianisme? Telle sera ma question, non seulement dans la tentation, qui semble éviter le Christ, mais dans les trois contes, qui vont en proposer une configuration historique dans l'histoire. Je voudrais dire deux mots très très vite sur la bascule que représente la troisième tentation de saint Antoine, cette bascule dont je viens de parler. La rédaction de la troisième tentation correspond au moment mythologique. Il n'est plus question alors, à ce moment-là, de tirer la religion vers la mythologie, dans l'esprit des Lumières, ou inversement, de chercher le religieux dans les mythes, selon l'option romantique. Et le moment mythologique auquel correspond la troisième tentation de saint Antoine domine dans les années 1850-1870 autour de Müller et Renan. Or, les mythologues scindent les mythes et la religion. En raison de la démarche linguistique adoptée, démarche qui d'ailleurs a fétichisé les mots, les racines, va ignorer véritablement toute interrogation sur l'interprétation ou le sens des mythes, sauf à tourner autour d'une interprétation archétypale, le soleil, le tonnerre, les éclairs, etc. La théorie de Müller est pour nous intéressante sur un point. Le mythe est né, pour Müller, du double phénomène de l'oubli des racines et de la prolifération des images dans des langues qui sont en grande situation de productivité. À cette caractéristique indo-européenne, c'est-à-dire des langues qui sont grosses, qui sont porteuses d'images, de mots et d'images, s'oppose une autre grande famille linguistique dont Renan est l'expert du moment, c'est la famille sémitique. Et entre la famille sémitique et la famille indo-européenne, entre ces langues-là, pas de comparaison possible pour des raisons scientifiques, pour des raisons linguistiques. On ne peut comparer que ce qui est comparable, donc les langues indo-européennes, mais pas du tout les langues indo-européennes avec les langues sémitiques. Les caractères sémitiques s'opposent point par point aux caractères indo-européens. Renan, dont les rapports avec Flaubert sont réguliers et importants, donne en 1862 sa première leçon au Collège de France, dont le titre est « De la part des peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation ». On sait qu'il a convié Flaubert à cette séance, puisqu'on a un billet de Flaubert au Goncourt, qui leur dit « Venez-vous demain au Renan ». Billet du 21 février 62, la leçon est du 22. On sait que les Goncourt n'y vont pas, et Flaubert vraisemblablement y a assisté. Alors cette leçon pose les limites de la part d'influence sémitique dans l'ère civilisée indo-européenne, et d'ailleurs Renan reviendra incessamment dans son œuvre sur ce point. Car Renan, hébraïsant, est cependant avant tout un fervent arianiste, défenseur d'une configuration indo-européenne du christianisme qui restreint fortement la part du monothéisme hébreu dans la nouvelle religion. Les raisons sont d'abord linguistique. Raison de cette faible représentativité de la part sémitique. On ne compte pas chez Renan les évocations du verbe hébreu qui est assimilé dans un texte de 1878 à un ver de terre, comparé à l'éléphant que constitue le verbe dans les langues indo-européennes. La langue sémitique est comparée par lui à un corset, un tuf imperméable. Cette langue, il la définit comme métallique, épurée, et il la définit surtout comme la mémoire d'un dieu solitaire et sans image. Il me semble que c'est dans cette langue-là que Flaubert fait parler son dieu d'Israël dans la troisième tentation de saint Antoine, un dieu, effectivement, on l'a vu, solitaire et pauvre en image. Bref, la mythologie est prolifération, alors que la religion monothéiste est infigurabilité et fixité, par inaptitude à formuler et à penser le multiple. Le retraitement par Flaubert du dieu d'Israël, muré dans cette solitude hautaine et stérile, peut alors nous apparaître comme une conséquence de la prégnance de ces théories indo-européennes au moment de la reprise de la tentation en troisième version. Reste le problème du Christ. Si Yahvé est renanien, si le dieu d'Israël est renanien dans la troisième tentation, le Christ le sera-t-il? Car Renan, dès sa leçon de 1862, puis ensuite évidemment en 1863 avec la vie de Jésus, s'emploie à sortir et à sauver le christianisme de l'influence un peu mortifère de la religion mère. Ce Christ théorique de 1862, celui de la vie de Jésus, je l'appellerai le Christ pratique de Renan, celui qui construit vraiment. Ce Christ théorique de 1862 est défini dans la leçon dont je parle dans les termes suivants. Il doit briser complètement son enveloppe juive pour devenir, je cite, « création dégagée des critiques étroites de l'esprit sémitique ». L'impératif pour Renan est de croiser l'excellence intellectuelle et culturelle de la Grèce, avec sa mythologie inepte, avec l'essence monothéiste sémitique, avec sa nullité intellectuelle, pour produire la religion d'un Occident chrétien, à la fois intellectuel, rationnel et religieux. Pour produire un christianisme arianisé, intime poésie de chacun, religion du cœur, écrit Renan. Bref, le christianisme sera dépassement de la tautologie juive, Dieu et Dieu, je cite encore Renan, c'est-à-dire une création qui vient relayer la phase d'abdication des religions polythéistes. Cette création, au fond, ce serait la conservation de l'esprit polythéiste dans une forme et dans une religion monothéiste. Et d'ailleurs, lorsque Renan évoque l'islam, il évoque l'islam comme une religion qui s'est constituée sur le refus, je cite, des éléments mythologiques que la race indo-européenne avait introduit dans le christianisme. Et Renan, à ce moment-là, d'évoquer la délicieuse parure de légendes romantiques celtes et germaines qui sont venues vitaliser finalement le christianisme et lui donner sa véritable consistance. De la même manière, on pourrait évoquer chez Müller un article intitulé « Sur la migration des fables » où là encore, il est question de la manière dont ont circulé depuis l'Inde, en passant par la Perse et par l'Arabie, un certain nombre de fables indiennes qui, nous dit Müller, étaient plus lues en Europe au XIIe, XIIIe que la Bible et qui se retrouvaient même intégrées aux sermons et aux homélies. Donc voilà pour la constitution théorique du Christ et du christianisme chez Renan. Ma question était depuis tout à l'heure, le Christ de Flaubert sera-t-il un Christ renanien? Il faut regarder le Christ pratique de Renan, c'est-à-dire celui qu'il propose au lecteur en 1863 avec la vie de Jésus qui ouvre le travail colossal des origines du christianisme. La personne du Christ est conçue par Renan comme le socle, dans la mesure où cette figure du Christ est initiatrice du christianisme, une sorte de commencement absolu. Il faut se souvenir que, en fait, Renan n'écrira l'histoire du peuple d'Israël qu'après avoir achevé ses origines du christianisme, comme si à ce moment-là, il devenait nécessaire de doter Jésus d'un amont sémite, hébreu, de le doter d'une culture et d'une sorte de déterminisme hébraïque. Comment Flaubert apprécia-t-il la vie de Jésus de Renan? Dès sa parution, il dit n'avoir guère apprécié la vie de Jésus, qui lui semble manquer, je cite, « d'appareil scientifique » dans une lettre de 1863. Lorsqu'il reprend l'ouvrage en 1869, dans un moment où il se dit dégoûté de la théologie et des chrétiens, il précise sa critique. C'est une lettre à George Sand. Je le cite, « Je viens de relire le Jésus de Renan. C'est un joli livre, plutôt qu'un beau livre. Quel singulier esprit. L'élément féminin et l'élément épiscopal y dominent trop. Son saint Paul est dédié à sa femme comme son Jésus l'était à sa sœur. Il me semble qu'une intelligence éprise avant tout du vrai et du juste n'aurait pas ainsi arboré deux cotillons au frontispice de son œuvre. » La critique est celle d'un certain sentimentalisme et d'une onctuosité épiscopale, comme si, malgré la mue du Christ renanien, un homme extraordinaire qui choqua tellement le parti clérical, Flaubert sentait encore trop le séminariste sous les lignes. Et de fait, nombre de passages dans la vie de Jésus chantent lyriquement la séduction de l'homme, par exemple une remarque du type « Son caractère aimable est sans doute une de ces ravissantes figures qui apparaissent quelquefois dans la race juive », ou encore « Il aimait les fleurs et en prenait ses leçons les plus charmantes », ou encore « Il se servait d'une mule dont le grand œil noir, ombragé de longs cils, a beaucoup de douceur ». Ce roman de Jésus a en outre pour caractéristique de s'attacher de fait à l'homme et de maintenir au second plan la légende de Jésus. Ainsi, Renan s'interroge à peine à propos d'un point quand même très important, qui est la généalogie de Jésus. Je cite Renan, il s'interroge pour savoir si Jésus sut quelque chose des légendes inventées pour le faire naître à Bethléem. Et il écarte le problème, on l'ignore. L'ouvrage donc déçoit Flaubert, et le déçoit d'autant plus qu'il le compare à la vie de Jésus de Frédéric Strauss, ou Strauss, paru en 1835, traduit en 1939 par Littré, et que Flaubert avait lu dès 1847. C'est le Jésus de Strauss qui revient dans la lettre de 63, dont j'ai déjà cité un passage, et il conseille donc à Mademoiselle Leroyer de Chantepie de lire le Jésus de Strauss. « Voilà qui donne à penser, dit-il, et qui est substantiel. Je vous conseille cette lecture aride mais intéressante au plus haut degré. » Strauss propose en effet une approche mythique de Jésus, c'est-à-dire que rien de ce qui touche la vie de Jésus n'est considéré en soi, mais toujours en fonction du moule de l'attente messianique et de l'immémoriale tradition des Juifs. Jésus y est bien moins une personne, ce qu'il est éminemment chez Renan, que la résultante de traits préalables. Bref, Strauss montre la formation du Christ, et pas seulement du christianisme, quand Renan, lui, va faire découler son histoire du christianisme de la réalité de l'homme-Christ. Pour Flaubert, choisir Strauss contre Renan, c'est en tout cas faire le choix de l'impersonnel contre le trop personnel, le biographique. Le Christ de Strauss, écrit Loris Retta, est une création collective, une concrétion historique et impersonnelle, un être vide, appréhendé au fil du fonctionnement de l'imaginaire. C'est bien ainsi, en effet, que Flaubert dissémine son Christ dans la tentation de saint Antoine, en impulsion imaginaire provenant de diverses voies et entourant une place vide. Un passage interroge ainsi expressément l'origine du Christ et son aspect. « Qu'était Jésus ?» demande Antoine, immédiatement emporté dans le maelstrom des réponses des hérétiques, où Jésus devient alternativement l'époux d'Acaramoth, Sem fils de Noé, Melchisédek, rien qu'un homme, un développement du Père, et la série se ferme sur un juif lépreux, proclamant la maladie bélérofontienne du Christ. Jean Seznec a localisé les sources de ce détail chez Beausobre, où Flaubert a trouvé ce trait d'un Christ fuyant la société des hommes par mélancolie, et il a retenu ce détail dans la mesure où il va s'agir pour lui de résister à une figure stable et durable pour Jésus. Ainsi, Antoine ne saura pas non plus comment était son visage, il s'interroge là-dessus, car Tertullien l'affirme très laid, puis Eusèbe de Césarée mentionne une statue de pierre dont le temps a rongé la face, avant que la scène ne bascule vers l'épisode des Ophites et que s'offre alors au regard d'Antoine comme une réponse décalée et déceptive, je cite, « une longue chrysalide couleur de sang avec une tête d'homme d'où s'échappent des rayons et le mot « knoufis » écrit en grec tout autour ». En d'autres endroits, Antoine, aiguillonné par Hilarion, est tenté d'entendre dans les propos de ses interlocuteurs des éléments chrétiens. Il a peur de reconnaître quelqu'un, et ce quelqu'un sera la mère de Jésus dans l'épisode de Cybèle. Et enfin, au comble de la tentation par Hilarion, qui lui suggère le grand syncrétisme où Proserpine est la Vierge et Aristée Jésus, Antoine ne peut plus alors que « cesser de voir », je cite le texte, « il reste les yeux baissés », et ne peut que répéter le symbole de Jérusalem, c'est-à-dire le credo, donné en effet pour le symbole du christianisme. Voici sans doute un problème majeur du christianisme, ces symboles. Il en a peu, si l'on en croit Michelet, dans la Bible de l'Humanité, qui écrit, je cite, « si les antiques dieux, les races actives et fortes, sortaient aujourd'hui des tombeaux, ils diraient, triste peuple du livre, de grammaire et de mots, de subtilité vaine, qu'avez-vous fait de la nature ?» Et il ajoute, en fait c'était un tout petit peu avant, « Jésus, aimez, croyez, tous vos péchés vous seront remis. Mais qu'aimer ? Mais que croire ? Ici, nulle formule précise, aimer le maître et croire le maître, pour symbole et credo, prendre la personne elle-même, credo vivant. » Défaillance de symbole, donc, pour la religion chrétienne. Si Victor Hugo, dans La fin de Satan, fait jouer à plein le symbole du gibet et de la croix, composant d'ailleurs La fin de Satan sur la logique de trois symboles forts, dans La tentation de saint Antoine, en revanche, la croix n'est pas au centre de la symbolique religieuse. Elle est présente dès la description initiale, mais elle est un élément du décor très vite prise dans les métamorphoses et de ce fait peu fiable comme repère. Certes, au début, elle est plantée dans le sol et elle semble répondre, par sa rectitude, au vieux palmier tordu penché sur l'abîme. Mais dès la page, des quatre pages plus loin, les bras de la croix se projettent en avant comme deux grandes cornes. Et surtout, la croix ne revient pas à la fin de la tentation, où elle va être remplacée par la face de Jésus-Christ dans le disque d'or du soleil. Dans une lettre de 1873, Flaubert tranche. Il écrit « La croix est une chose laide, esthétiquement parlant, surtout lorsqu'elle n'a pas de support, lorsqu'elle est suspendue en l'air. Et puis je l'ai employée pour jeter une ombre sur l'Olympe. Que diriez-vous de la face du Christ apparaissant dans le disque du soleil ?» Le critère de sélection du symbole est avant tout esthétique. Et en soi, la croix n'y répond pas. De plus, l'usage du symbole comme une marque qui serait récurrente, incontournable, ne convient pas à Flaubert. Déjà utilisée, la croix est en quelque sorte périmée. La logique ici n'est pas la logique chrétienne, pour qui la croix brandit incessamment au cours des tentations est l'indice de la force de la foi. La logique est esthétique et c'est celle de la transformation, donc de la diversification des symboles. Or, le matériau symbolique chrétien est mince, aussi reste-t-il à Flaubert à inventer un symbole moins commun et plus clair, dit-il. Et donc, la face du Christ rayonnante est une sorte de composition de la face du Christ auréolée, celle des frontons des cathédrales par exemple, et de l'ostensoir, hein, le soleil qui représente l'Eucharistie, par exemple à la fête de Dieu. En somme, la tentation refuse et déconstruit le Jésus-homme extraordinaire de Renan. L'œuvre l'impersonnalise, en dissémine les traits et les symboles. Mais avec les trois contes, Flaubert reprend la question du christianisme de manière approchée et également de manière chronologique. Je considérerai donc les trois contes comme un prolongement du défilé des dieux, non sans remarquer qu'il propose une remontée à rebours vers l'origine de la croyance particulière qui est le christianisme. Mais il suffit de redoubler le rebours pour avoir au fond une chronologie ajustée à la tentation, plus ou moins ajustée à la tentation de saint Antoine. Évidemment, se pose la question, le mouvement de disparition des dieux a-t-il cours dans les trois contes, si l'on procède de l'antique vers le moderne? Et, à les prendre dans l'ordre du recueil, est-ce à une archéologie que nous avons à faire ou à une autopsie? Nous essaierons de répondre à cette question-là. Remarquons d'abord que la naissance du christianisme dans Hérodias se fait selon les mêmes présupposés que ceux de la tentation de saint Antoine. Christ absent. Remarquablement absent, objet des discours du festin, objet des vœux de Jean-Baptiste et de ses interrogations, mais en fait tout aussi disséminée que dans la tentation. Si le festin nomme Jésus, c'est de biais. Comme élément d'une série, Yahokanan, Simon le magicien, et puis un certain Jésus. C'est aussi comme bateleur, guérisseur, démoniaque, le Messie, finit par dire le défenseur le plus engagé de Jésus, mais en l'appelant ainsi, il dilue la singularité de Jésus dans le moule du messianisme. C'est justement de la sorte, je crois, que Flaubert propose une mythologisation du Christ. Les possibles se pressent. Les légendes passées, Gog et Magog, démons du Nord, qui sont évoqués à ce moment-là, des figures de prophètes, Élie et Yahokanan, qui passent en série, le tout sur fond de brassages de culture et de culte, avec, à la fin de la scène que j'évoque, ce Germain presque aveugle, chantant un promontoire de Scandinavie où les dieux apparaissaient avec les rayons de leur figure. L'Homère du Nord, en quelque sorte, qui vient compléter le tableau des conditions faites au christianisme pour conquérir l'Occident. Effondrement des dieux romains, division et stérilité juive, et enfin ouverture germanique vers l'épopée et la mythologie. Le festin fonctionne comme creuset où se prépare quelque événement d'importance. Mais justement, Flaubert prend l'option de la préparation et non de la révélation. L'issue de la danse de Salomé manifeste un tel choix. Rien dans la logique de la scène ne motive la mort de Yahokanan, alors que les évangiles posent les données de la promesse d'Hérode de façon radicale. L'antipas de Flaubert ne promet que, je cite précisément, Capharnaüm, Tibérias, ses citadelles, ou bien la moitié de son royaume. À aucun moment il ne prononce l'engagement absolu « Je te donnerai tout ce que tu voudras ». Aussi bien, la demande de Salomé est-elle irrecevable, hors terme du contrat. Et pourtant, elle tombe, la tête de Jean-Baptiste. Qu'en déduire? Que Yahokanan meurt pour rien? Qu'aucune parole ne vient fonder ni requérir sa mort? Ce que confirme, à la fin, l'arrivée trop tardive de la réponse espérée par Jean-Baptiste, et qui, au fond, ne sera délivrée, cette réponse, qu'à ses disciples. Comment mieux dire qu'il n'y a pas de révélation et pas de fondation autre que hasardeuse, reposant sur un supposé savoir ou encore sur un pari? C'est le pari que fait Yahokanan. Un pari que relaie un désir collectif de croyance, c'est celui de ses disciples. La tête en partance devient ainsi le symbole de cet acte de création. Elle devient un objet de désir proposé en partage, qui finalement se substitue à la figure du Christ. La légende de Saint-Julien va être le cadre idéal, celui des légendes délicieuses évoquées par Renan, d'une création à l'indo-européenne de cette religion chrétienne. Cécile Maté a récemment rappelé, outre la pleine vitalité de la période légendaire médiévale dans la constitution du mythe chrétien, la manière dont le récit hagiographique identifie son héros à la figure christique. Elle renvoie à Alfred Maury, pour qui la légende pratique une, je cite, « superposition aléatoire de différentes références évangéliques formant le tissu narratif du récit ». Inutile de revenir sur les motifs composites, païens ou chrétiens, Narcisse, Œdipe, Saint-Hubert, Saint-Christophe, Adam, la scène, la crucifixion, qui traversent le texte et viennent habiter le personnage de Julien, avatar christique. Si la figure du Christ ou la figure christique se trouve portée dans ce conte à son maximum de visibilité, en particulier avec l'apparition finale, il n'en reste pas moins vrai que le Christ, dans la légende de Saint-Julien, à être partout, n'est là encore véritablement nulle part. La proximité dans laquelle Flaubert place son Christ et le vitrail de son pays à la fin de la légende nous engage à rapidement les comparer. Le Christ de Flaubert et celui du vitrail. Pour aller très vite, le vitrail convoque dans la barque de Julien le Christ puis le diable. En même temps, le vitrail fait circuler l'auréole, symbole de sainteté, qui va du Christ à Julien selon les séquences. Et la figure du Christ en majesté en haut du vitrail vient subsumer l'absence. Flaubert va condenser la dualité Christ-diable du vitrail en une figure unique qui est celle du lépreux. Unique mais pluriel, on va le voir. D'aspect donc diabolique avec ses yeux rouges comme des charbons, sa figure pareille à un masque de plâtre. Il est le souvenir du père mort, de sa prunelle éteinte, brûlante comme du feu, qui elle-même relaie les yeux flamboyants du grand cerf. Il est, ce lépreux, l'affirmation de la chair, de sa finitude et de sa décomposition, dimension qui était occultée dans la scène du meurtre, quand les corps massacrés des parents ne laissaient voir, étrangement, paradoxalement, qu'un trou dans la poitrine et un visage d'une majestueuse douceur, alors que on sait très bien que Julien s'était acharné sur le corps de ses pères et mères. Il est en somme, ce lépreux, le retour du refoulé, l'incarnation du mal absolu, le parricide, enfin le parenticide, et peut-être aussi d'ailleurs le revers du vieillard à barbe blanche de La Fontaine. Il est, je crois, une invitation à repasser sur le corps meurtri. Il est le diable en tant qu'il est auxiliaire de la volonté divine. Et il est Christ, changeant l'eau en vin, et rédimant finalement, en majesté et en gloire, le pécamineux Julien. Cependant, le texte semble vouloir le garder lépreux jusqu'au bout, tous les possessifs, ses yeux, ses cheveux, ses narines, renvoyant jusqu'au bout de la phrase au lépreux. La figure du lépreux ne cède et ne cède la place à notre Seigneur Jésus qu'à la fin du paragraphe, et elle ne cède qu'en délivrant d'un même coup le personnage de Julien, le nom de Julien, avec le nom du Seigneur. Je cite la phrase. « Et Julien monta vers les espaces bleus face à face avec notre Seigneur Jésus qui l'emportait dans le ciel. » Ce qui s'accomplit ici est un enveloppement des trois figures, celle de Julien, celle du diable et celle de Jésus. Ce qui est une manière de reprendre et de condenser ce qui se jouait certainement sur le vitrail. On remarquera aussi que la mise en scène de la fin de Saint-Julien est du même ordre que la mise en scène de la fin de la Tentation, comme si le schéma théâtral insistait. À la fin de la Tentation, les nuages d'or comme des rideaux de tabernacle qu'on relève, la face de Jésus dans le soleil. Du côté de la légende de Saint-Julien, le déploiement du firmament et le face-à-face, la double face, si on peut dire, de Julien et de Jésus en apothéose. Antoine couché au sol et regardant, Julien étalé sur le corps du lépreux, engage dans les deux cas un procès de création spectaculaire et extatique. On remarquera aussi que ce qui insiste et ce qui revient dans les deux cas, c'est le motif même du lépreux. On se souvient, dans la tentation, de ce juif à la peau maculée de lèpre qui décrétait la mélancolie de Jésus. Et donc sa fuite, son écartement de la société des hommes, déniant ainsi toute possibilité de connaître, de voir la face du Christ. Or, la lèpre a pu être considérée au Moyen-Âge comme l'une des manifestations de la mélancolie. Et il me semble que le lépreux marque donc à la fois la défaillance figurale christique et aussi, via la mélancolie, la défaillance identitaire unitaire de la personne. Bref, le travail de figuration l'emporte sur la constitution d'une figure. À la fin de la tentation, comme ici, quand il est effectivement question du Christ, Flaubert préfère donner à voir la poussée constitutive d'une aspectualisation dans le cadre d'une mise en scène, plutôt qu'arrêter une figure dans des traits fixés. Et tant qu'à donner des traits, ce seront ceux du lépreux, du mélancolique, comme creusés de possibles, lesquels impliquent ici, comme dans Hérodias, l'activité créatrice d'un spectateur désirant, co-auteur en quelque sorte d'une configuration. Julien, face au lépreux, atteste de sa mue en Christ. Et dans un contexte culturel médiéval, pétri de motifs légendaires et donc ouvert aux figures et à leur circulation, cette attestation pour lui-même prend valeur collective, le narrateur choisissant l'expression « Notre Seigneur Jésus » appelle son public à reconnaître et se reconnaître dans cette vision. Que se passe-t-il dans un cœur simple ? Après le récit de la fondation, Paris et symbolisation initiée sur la tête de Yahochanan, après la phase d'efflorescence mythique du Moyen-Âge, le conte 19e rejoint en quelque sorte le temps historique que Flaubert avait envisagé de donner comme cadre à son Christ dans la tentation, s'il avait existé ce Christ. Ultérieurement baptisé « Mort du Christ dans une ville moderne », cette variante apparut tardivement et finalement abandonnée par Flaubert. Le passage en question creuser le temps, hein, partir vers le futur, Antoine accédait à la modernité par un défilé entre deux murailles, au fond desquelles, dans un éloignement incalculable, une ville apparaît. C'est une ville moderne, avec des ponts de fer, des voitures closes comme des cercueils, des reflets de tavernes, des grands miroirs, des hommes en costume hideux emportés dans une course effrénée, le menton bas, l'œil oblique, tous ayant l'air de cacher quelque chose, une ville moderne un peu baudelairienne. Dans ce récit-là, que Flaubert donc écrit mais qu'il écarte, hein, enfin, Antoine aperçoit Jésus. Donc quelque chose là de la révélation de la face du Christ aurait pu s'effectuer. Comment Jésus apparaît-il? Comment serait-il apparu si le texte avait été inclus, l'extrait avait été inclus? Rapidement, quelques analyses. Son aspect emprunte au juif errant, puisque le texte nous dit « depuis le temps qu'il marche, sa taille s'est courbée, sa chevelure a blanchi ». Autre détail, sa croix, je cite, « fait en pliant un arc immense sur son épaule ». La croix n'a pas résisté, comme symbole, là encore. Il implore en vain, nul ne l'écoute. Il ne dit rien. C'est-à-dire que Flaubert renverse la logique du défilé des dieux, là où chacun se racontait puis disparaissait. Le dernier dieu de la série est réduit au silence. En revanche, les hommes de toutes les nations de la ville cosmopolite lui font part de leurs griefs, soit critiques acerbes des perversions institutionnelles commises en son nom, soit expression de la désespérance de cœur définitivement inassouvie. La scène est une scène d'autopsie d'une foi défunte, où l'ironie, la science médicale et la philosophie mettent en lambeaux le culte, le mystère et la croyance. Ce Christ, dépecé à coups d'ongles, finit littéralement broyé sur le pavé, où palpite son grand cœur tout rouge, dans l'indifférence générale et dans une réécriture de la fin de Salammbô, de la mort de Mâtho, sans qu'aucun prêtre ne vienne plus relever de sa spatule d'or une quelconque sacralité du sacrifice. Flaubert renonce à cette scène, trop narrative d'ailleurs pour la tentation, mais qui me semble contenir en germe une interrogation relative à la possibilité même du christianisme dans les temps modernes. Un cœur simple relance la question, mais en l'inscrivant donc dans la durée historique du christianisme, dans la suite des autres contes. Félicité vit dans un univers provincial où la religion n'a guère de place. Madame reçoit chez elle un aristocrate ruiné, un avoué, des habitués pour la partie de Boston, mais pas de curé. Au contraire de Bouvard et Pécuchet, où l'abbé Geoffroy est intégré aux notables. Félicité pourtant se levait des lobes pour ne pas manquer la messe. Cela dit, cette régularité semble relever bien davantage de sa structure obsessionnelle que de piété. La religion va s'introduire dans le conte par le biais des comportements sociaux. Je cite, « une occupation va la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme. » Flaubert approche la religion dans sa dimension de catéchisme, un catéchisme à laquelle elle assiste à l'église et qui, inévitablement, endort Félicité. Donc, a priori, on a l'impression que dans ce conte-là, effectivement, la religion n'a plus grande efficacité, n'a plus grande actualité, sauf comme comportement obligatoire et social. Pourtant, le récit va engager l'assentiment de Félicité sur un point particulier et selon une modalité particulière. Le Saint-Esprit l'attire parce que, je cite, « elle avait peine à imaginer sa personne ». Or, la peine à imaginer est un préalable à la création de représentations, et l'enquête de Félicité sur l'un des trois éléments de la Trinité prolonge finalement le travail flaubertien de détermination plurielle du Christ dans la tentation, comme dans Saint Julien. Dans toute sa simplicité, Félicité est un peu mythologue. Elle compare les formes du Saint-Esprit, oiseau, feu, souffle. Elle procède à une interprétation de type naturaliste en le supposant présent au bord des marécages, dans les nuées, dans le son des cloches. Il me semble que là, dans cette élection que fait Félicité de l'esprit, du Saint-Esprit, là est sa marge de liberté et de subjectivité au sein d'un comportement normé par les exigences sociales. Je ne vais pas ici développer trop précisément, par manque de temps, les étapes de la fixation de la croyance sur l'objet singulier qu'est Loulou, comme incarnation du Saint-Esprit. Je voudrais simplement souligner quelques points. Loulou vivant a une fonction de compensation, fils et amoureux à la fois. Mort, sa fonction se complexifie. Installé dans la chambre de Félicité, il rassemble, il unifie le bric-à-brac mi-religieux, mi-profane d'un lieu, sa chambre, dont la description n'avait pas encore été faite dans le récit. C'est-à-dire que Loulou donne un lieu à Félicité. De même, il est le point d'ancrage de la temporalité pour un personnage jusque-là pris dans la répétition. je cite le passage, « en s'éveillant, elle l'apercevait, hein, il est empaillé, et se rappelait alors les jours disparus, sans douleur, pleine de tranquillité. » Il est donc fondateur d'un espace-temps qui lui manquait à elle. Et puis, secondement, il va se retrouver investi d'une fonctionnalité religieuse. On sait qu'il y a une série où on passe du Saint-Esprit à l'Église, à l'image d'Épinal du baptême du Christ, avec l'oiseau qui est représenté sur l'image d'Épinal. Et enfin, on en arrive à la substitution de Loulou à la représentation. Et cette série, elle définit, au fond, l'élaboration d'un fétiche au sens religieux. Originairement, le fétiche, c'est un animal, une plante, une pierre, un coquillage, qui ne vérifie pas le principe de représentation du dieu. Le fétiche ne suppose pas le partage. A priori, chaque membre de la tribu primitive choisit son fétiche pour un profit tout personnel. On le voit, Loulou, en fonction de ces définitions un peu rapides, Loulou fonctionne effectivement comme fétiche individuel dès lors qu'il engage d'abord une reconfiguration et de l'espace et du temps pour Félicité, et dès lors qu'il engage aussi une nouvelle forme cultuelle pour Félicité. En même temps, il est aussi une matérialisation objectale d'une représentation préexistante, celle qui est sur l'image d'Épinal, et celle qui est aussi sur le vitrail de l'Église. Il est fétiche et idole, ou plutôt, peut-être, il manifeste la part fétichiste demeurée au fond des représentations religieuses les plus orthodoxes. Se jouent, je crois, à la fin d'un cœur simple, quelques échos relativement à la tête posée comme symbole premier à la fin d'Hérodias. Félicité, on s'en souvient, n'a plus sa tête, comme si, la perdant, elle réactivait à sa manière le don de Yaoukana. Lui, on s'en souvient, perdait la sienne sur le pari d'un événement fondateur. Félicité est-elle le dernier maillon dans la circulation d'une croyance dont les images et les imaginations sont encore actives? Est-on ici face à un avatar de l'appropriation occidentale, indo-européenne, du religieux par les voies de l'invention, voire de la poésie? Ce qui est sûr, c'est que le récit normand ne reprend pas, je crois, le motif germinatoire de la mort du Christ dans une ville moderne, dans la mesure où, précisément, il installe une subjectivité comme focale du rapport à la croyance. Il me semble que c'est peut-être là une des idées forces des trois contes, mettre en œuvre le désir, faire de la psychologie le moteur de la foi. Désir de Yaoukanan, désir de prophète, qui doute certes, mais qui est désirant, recouvert par le désir comblé des disciples partant avec sa tête. Espace complexe du désir de Julien, le parenticide, qui sous-tend la légende et qui s'inscrit comme strate interprétative lors de la scène de rachat et d'assomption, via la superposition des figures du lépreux et du père. Désir de Félicité enfin, car là encore, les contraintes psychiques auxquelles Flaubert soumet Félicité, hein, elle a perdu son père, et cette phrase extraordinaire, elle a vécu comme une autre son histoire d'amour, son père, un maçon, était tombé d'un échafaudage, etc. Contrainte psychique qui conforme l'identité de Félicité, qui génère un nouage que viendra finalement défaire un objet représentant la résolution de la contrainte, et cet objet, c'est Loulou. Bertrand Marchal a montré comment, à partir de Hartmann, en passant par Taine, Ribot, Charcot, le Zola de Lourdes, l'idée du rôle de l'inconscient dans la formation des représentations collectives s'impose dans l'espace des études du fait religieux. Certes, ce n'est pas encore l'inconscient individuel de Freud, mais de ce point de vue-là, et comme le disait Freud lui-même, il se pourrait bien que le poète ait précédé le psychanalyste, et qu'il soit possible de lire les trois contes comme une sorte de roman familial, laissant entendre, finalement, ce roman familial, et là je cite Freud, que la conception mythologique du monde qui anime jusqu'aux relations les plus modernes n'est autre chose que psychologie projetée sur le monde extérieur. Sur la fin d'un cœur simple, que dire, puisque c'est bien la question que je me pose là. Est-ce, comme l'écrivait Le Bon, Gustave Le Bon, une manifestation de la fin du dogme chrétien? Je dirais que la lecture de la mort du Christ dans une ville moderne avalise l'idée de Le Bon que le dogme chrétien, je cite, après 18 siècles, ne peut plus vivre. Autant, en fait, un cœur simple semble renvoyer dos à dos cette position de Le Bon et celle de Renan, pour qui, je cite, un christianisme libre et individuel, avec d'innombrables variétés intérieures, comme celui de Félicité, serait l'avenir religieux de l'Europe. Cet avenir religieux de l'Europe, Renan le compare, le renvoie vers le christianisme primitif, celui des trois premiers siècles. Pour ma part, je pense qu'on pourrait le renvoyer plus en amont et le renvoyer à une religiosité, une forme de croyance radicalement primitive. Et si jusqu'à présent, si depuis le début je me suis intéressée à ce qui manquait à la fin du défilé des dieux, en faisant valoir que le défilé des dieux n'était pas achevé, que la figure du Christ y manquait, même si, bien entendu, je crois que le défilé des dieux ne peut pas être achevé. Mais en tout cas, il y avait quand même une croyance qui manquait. Il me semble qu'on pourrait regarder d'où est parti, ou comment a commencé le défilé des dieux, remonter à l'origine absolue, enfin celle que Flaubert donne comme origine absolue, de toutes ces croyances qu'il monte les unes à côté des autres. Qu'est-ce qui se passe au tout début du défilé des dieux? Au commencement, je cite, « Il y avait, passant à ras du sol, des feuilles, des pierres, des coquilles et des branches d'arbres, de vagues représentations d'animaux, puis des espèces de nains hydropiques. Ce sont des dieux. » Il éclate de rire. « Qu'il faut être bête pour adorer cela. » Défilent ensuite les idoles antérieures au déluge, dont certaines, je cite, « laissent couler du sable par les trous de leur ventre. » Antoine et Hilarion, on s'en souvient, se tiennent les côtes à force de rire, avant que ne passent des idoles à profil de mouton, titubantes, qui, je cite, entr'ouvrent leurs paupières et bégayent comme des muets, bah, bah, bah. À la fin du défilé, à condition d'accepter d'inclure les trois contes dans le défilé des dieux, chez Flaubert, à la fin donc, il y a le psittacisme du perroquet, charmant garçon, serviteur monsieur, je vous salue Marie, avec aussi le tic-tac du tourne-broche, la scie du menuisier. Et puis il y a aussi cette étoupe qui sortait du ventre de Loulou une fois mort. À vrai dire, c'est de cet effet de retour, de l'animalité, du bégaiement, de la coulée de sable ou d'étoupe, qu'est née mon idée de faire le tour du défilé des dieux en transgressant les frontières des textes. Le tour, car la fin vient recouvrir d'une certaine manière le commencement. À cette différence près que les fétiches font rire Antoine qui ne sait pas les lire, tandis que le fétiche de Félicité ne fait pas rire mais finit bel et bien, quel que soit l'avis des commères, sur le reposoir. Est-ce à dire que se jouerait au miroir des deux œuvres l'éternel retour du même, en tant que ce même consiste en l'élection relative de formes jamais tout à fait propres à porter une croyance? Sans doute, les nombreuses fulminations de Flaubert quant à la barbarie des modernes, aussi barbares que les sauvages tapant sur leur tambour, pourrait confirmer cela. Mais plus profondément, la confrontation des formes primitives et des formes civilisées suggère peut-être la prégnance du rapport fétichiste, donc du rapport personnel, aux représentations collectives, la part du soi dans la culture partagée. Et comme conclure est toujours une stupidité, autant le faire deux fois. On a envie de dire, enfin, moi j'ai envie de me demander, en terminant ce travail qui a consisté à créer un ordre, à mettre les trois contes après la tentation de Saint-Antoine, j'ai envie de dire, et après? Après la tentation, j'ai mis les trois contes. Et après? Qu'est-ce qui pourrait venir après les trois contes, puisque nulle religion ne peut se targuer d'universalité? Le défilé n'est jamais terminé. En fonction de la logique, est-ce qu'il s'est dans la tentation de Saint-Antoine, qui est une logique, qui est l'idée d'un manque et d'un blanc fondateur? J'aurais bien envie de faire venir, comme quatrième conte possible, non flaubertien bien sûr, qui prendrait la suite des trois contes, un petit texte qui date de 1902 et qui est écrit par Anatole France. Son titre est « Le procurateur de Judée » et il raconte une conversation entre Ponce Pilate et un certain Laelius Lamia. C'est une conversation de vétérans qui se souviennent de la Judée à l'époque du Christ, de l'entêtement des Juifs, de leur résistance à admettre la toute-puissance de Jupiter, etc. Et à la fin, à la toute fin de ce petit récit, lorsque Lamia presse Ponce Pilate de questions à propos, je cite, d'un jeune thaumaturge galiléen. Il se faisait appeler Jésus le Nazaréen, et il fut mis en croix pour je ne sais quel crime. Pontius, te souviens-tu de cet homme ? Pontius Pilatus fronça les sourcils, porta la main à son front, comme quelqu'un qui cherche dans sa mémoire, puis, après quelques instants de silence, « Jésus, murmura-t-il, Jésus le Nazaréen, je ne me rappelle pas. »
Très bien, très intéressant. Questions, remarques, beau parcours à travers les textes.
Pardon pour la longueur, je pense que c'était un peu long.
J'ai vu la dernière, c'était l'avant-dernière, puis la dernière page, je me suis dit, bon, je ne dis rien. C'était bien, donc... ça, les... Claude, Mouchard.
Vraiment, alors j'ai dû me frapper parce que j'ai pu en continuer ce que vous avez fait sur la réduction du Dieu de l'Ancien Testament. C'est très probant, très saisissant, par ailleurs, à la fin de ce que vous avez dit, ce matin on a laissé tomber un peu les choses qu'on avait prévu de dire, mais pas beaucoup de temps, sur le fétichisme en effet. Bien sûr, il n'y a pas dans l'alimentation, il n'y a pas question de fétichisme, puisque il y a des questions d'idoles. Mais c'est tout le rapprochement que vous avez fait. Jacques l'a fait aussi ce matin avec le perroquet de Loulou. Et c'est une des choses que nous avons dit, donc, touche à ce que vous terminiez, juste avant votre fin, c'est cette catégorie du fétichisme au 19e siècle, tellement qui court partout. Il y a quelque chose là, je pense que peut-être que je vais se mettre là-dessus, mais parce que je me souviens que la question est posée à Müller du fétichisme, et par exemple, est-ce que le fétichisme c'est la forme originaire du religieux ? Il dit non, il dit que c'est plutôt une dégradation du religieux. C'est plutôt, et là, on retrouvait là le côté bête, c'est bête, hein,
oui.
Dans le texte, la bêtise, du coup, c'est la bêtise aussi qui vient avec le fétichisme, mais aussi donc la fin de la cursa, dans le sens où vous en parliez. Voilà. Mais cette catégorie, vraiment, j'ai lu un article japonais en anglais sur la question du fétichisme du 19e siècle, et le chercheur japonais prétend montrer que ça circule partout, mais ça n'est jamais nulle part vraiment admis. C'est-à-dire que ça ne tient pas vraiment, on n'admet jamais vraiment comme une catégorie, sauf chez Comte, disons, hein, qui ont fait la première étape du religieux. Et après ça, ça bouge tout le temps et ça ne vient nulle part, ça passe. Sauf aussi chez Marx, où c'est le fétichisme de la marchandise. Et donc on retrouverait quelque chose de la tentation de saint l'exposition, le côté marchandise en effet, de tous ces objets.
Oui, mais effectivement, c'est vrai qu'il est perçu par les historiens des religions comme un phénomène extrêmement dégradé, c'est-à-dire qui n'est même pas à la hauteur de cette démarche naturaliste finalement qui déifie les forces de la nature. Là, le fétichisme, c'est vraiment un espèce de business, c'est de soi à soi. Alors, il y a des évocations du rapport des tribus primitives au fétiche. Quand le fétiche semble n'avoir pas apporté une bonne chance, etc., on le jette au sol, on le piétine, etc. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, effectivement, il manque... Moi, en fait, ce que je crois, c'est que le 19e siècle est quand même corseté, d'une certaine manière, dans une espèce de contrainte de considérer la religion... autrement que soit qu'en la préservant finalement. Et donc du coup, considérer le fétichisme comme première forme finalement du religieux, ça serait la ramener à trop peu de choses, à une démarche purement intéressée, purement. Enfin voilà.
Barbara Lincoln. Je me demande si, moi j'ai l'impression que le rapport que vous avez à la religion,
pour démontrer, enfin, ce rapport que je perçois comme extrêmement ambivalent et agressif. Revenir sur la scène que vous avez interprétée aussi, c'est-à-dire la fin de Saint-Julien, justement, et ce défaut. Et comme vous l'avez très bien montré, c'est à la fois un intertexte avec la fin de Satan de l'époux qui sort exactement de la fin de Satan, c'est Christ et Satan en même temps. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, la scène d'un amour inverti, n'est-ce pas, inverti dans ce sens que c'est une scène d'un amour satanique, à savoir homosexuel. Et je me demande si, et ça c'est uniquement pour montrer ce rapport d'une agressivité presque érotique de Flaubert avec le christianisme. Et je me demande si c'est pas pour, si l'intérêt de Flaubert dans le christianisme n'a pas aussi ce versant, pas seulement comme vous l'avez montré, analytique, mais aussi ce versant tellement satirique, un versant déconstruction, enfin, dans ce sens d'un rapport ambivalent et extrêmement émotif.
Ouf. Je ne sais pas, je vais faire une réponse qui n'en est pas une, mais je regardais un certain nombre d'articles qui sont parus lorsque La Tentation a été publiée. Et ce qui m'a frappé, donc il y avait une critique de Camille Pelletan, et puis il y avait celle de Barbet, et puis il y en avait une autre, j'ai oublié l'auteur. Mais globalement, ce qui monte de la réception, c'est pas du tout le sentiment d'une offense, finalement, à la religion. C'est-à-dire que cette agressivité qu'on pourrait peut-être rattacher à un voltairianisme féroce, hein, enfin, quelque chose de cet ordre-là, n'est pas du tout relevée, enfin, dans ce que j'ai consulté. Et je me disais, j'ai repéré ça, je me disais, c'est quand même assez étonnant qu'effectivement, la réception... Alors, de La Tentation, bien sûr, à cause de Crépitus, c'est-à-dire, il y a des remarques sur le fait que, quand même, le dieu des flatulences, juste avant, le dieu d'Israël et tout ça, c'est un peu fort. Mais il n'y a pas de... La réception, les avis ne sont pas choqués. Alors, c'est pas une manière de répondre, je pense, suffisante à ce que couvre comme questionnement énorme votre question. Mais je sais pas, je veux dire, à un moment dans ma communication, sur Un cœur simple, je me pose vraiment la question de ce qui se joue à la fin et ce qui se joue dans l'ironie de chacune des fins des trois contes. Est-ce que ce qui s'y joue, c'est une révocation? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus composite et complexe? Donc j'écarte pas effectivement une dimension de grande violence, et notamment dans Hérodias, hein, tout ce qui est ingestion, dévoration, etc. Oui, mais effectivement je crois que c'est mon Flaubert, effectivement, il a cette approche mélancolique que vous signalez. Mais je dis pas qu'elle est exclusive de, je sais pas.
Gisèle Séjinger, Jacques Neff.
Oui, non, je pense que Barbet continue sur sa lancée. Ce qu'il a critiqué déjà chez Flaubert, c'est encore là-dessus qu'il s'acharne. Hein. Il creuse pas une nouvelle, enfin, il creuse la même veine, quoi, finalement.
Jacques. Oui, d'ailleurs, ça, c'est très pertinent, c'est très juste, parce qu'effectivement, la tentation est une interrogation sur la matérialité des représentations. C'est absolument pertinent. Qu'en est-il de la matérialité des représentations mentales, c'est-à-dire de leur puissance? On en a parlé ce matin, mais. Cette question du, je crois que les visions du Christ, de la figure du Christ, j'aurais deux questions. Enfin, ce qu'elle devient, d'abord sur le fétichisme, je crois qu'effectivement, Paul Venn, dans Quand notre monde est devenu chrétien, cite Zimmel là-dessus, non pas sur le Christ directement, mais sur le fétichisme, et sur le fait que les explications causalistes ou sociologiques de la religion, même psychologiques, l'emploi de la mort, énigmes métaphysiques, besoin de consolation, sont toujours insuffisantes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que c'est une sorte de catégorie a priori, qu'on peut y arriver d'autre chose, le religieux, ou en tout cas le sens divin. Et il commente le fétichisme chez Marx en soulignant bien que chez Marx, l'opium, la religion opium, ce n'est pas la consolation d'un peuple opprimé, économiquement, mais est-il la consolation la moins coûteuse, la plus populaire que puisse avoir la créature oppressée. La moins coûteuse, la plus populaire que puisse avoir la créature oppressée. Je crois que ça dérive tout à fait félicité, enfin, cette situation félicité. Alors, de ce point de vue, Christ, Saint-Esprit, le Christ, au fond, je trouvais, il est aussi ailleurs, c'est-à-dire que la mort de Matho, la mort de Sarbier, d'une certaine manière, la figuration christique est là, du sacrifice. Dans le passage cité sur les fétiches et qui est adversable, tout de suite après, il y a Moloch. Donc il y a cette dimension de la violence et du sacrifice qui va absolument avec l'esprit à l'autre côté. Et donc la question, c'est quand même, est-ce que le choix pour féliciter du Saint-Esprit ne va pas vers autre chose? C'est-à-dire que le choix du Saint-Esprit a une vertu extraordinairement positive, qui est celle de l'insaisissable, qui est celle de l'aérien, du feu. C'est à la fois le feu, l'air et le souffle. Donc il y a tout de même dans cette conversion vers le Saint-Esprit, cette conjonction très particulière du plus matériel, du fétiche, l'objet, l'extériorisation la plus forte de la croyance, l'objectivation la plus forte dans n'importe quel objet et la plus singulière, et simultanément le rapport à ce qui serait le plus indéfini. Je ne sais pas, sur ce bénéfice du Saint-Esprit, est-ce que vous avez, contre le Christ, quoi, le Saint-Esprit contre le Christ, contre le Fils, quoi.
Ça me fait penser, là aussi je vais répondre peut-être de manière un peu déplacée, mais ça me fait penser à l'enthousiasme de Flaubert pour les dialogues philosophiques de Renan. Dans les dialogues philosophiques, c'est assez curieux, bon c'est un texte que je ne connais pas très bien, je vais en dire juste trois mots, en espérant ne pas dire de sottises, mais à la fois il y a l'affirmation par Renan du caractère essentiellement abstrait, spirituel, c'est-à-dire c'est l'idéal d'abstraction de la religiosité. C'est le christianisme arrivé à son terme, finalement. Et en même temps, dans le troisième dialogue philosophique, il y a une espèce de recherche effrénée des incarnations de ça. Et il propose à ce moment-là les Védas comme modèle. Et donc, il y a cette espèce de tension comme si, au fond, le stade ultime, maximal de l'éthérisation pouvait se jouer dans à travers des formes. Et peut-être que ce qui se joue à travers le perroquet, à travers Loulou, à travers cette hypermatérialité, parce que l'étoupe qui sort, enfin le fait qu'il y a effectivement cette présence terrible de la matière qui de toute façon continue presque à fonctionner alors que le corps est mort, etc. Et peut-être que c'est dans ce rapport paradoxal entre l'hypermatérialité et qui est pourtant la garante presque de cette spiritualisation. Oui, enfin oui, je vois bien, effectivement, je pense que le choix du Saint-Esprit. Bon, en même temps, je pense que dans les trois contes, on a quand même, en gros, la vérification de la Trinité, hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le troisième. Donc, ça, c'est une autre logique qui. Donc, je.
On s'arrête peut-être là. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On fait une petite pause de 5 minutes, hein, avant d'écouter Bertrand Marchal.